savoir, Louise Touret.
Les enfants migrants, quelles questions éducatives? Alors que le gouvernement vient de lancer une refonte des lois sur l'immigration, Être et Savoir s'intéresse à ces enfants migrants, à leur accueil, à leur scolarisation et à leur parcours. Les questions d'apprentissage, d'adaptation posées par l'arrivée de ces enfants dans nos écoles sont-elles nouvelles? Aujourd'hui, de quelle manière les adultes peuvent aussi répondre aux interrogations des enfants sur ces nouveaux arrivants, sur les migrations et les conditions de vie des migrants? Il est notable qu'un nombre croissant de publications destinées à la jeunesse, et pas seulement à la jeunesse, se sont emparées de ce thème. Enfin, nous voulons dans ce numéro parler des parcours migratoires enfantins et adolescents, c'est-à-dire à un moment où l'individu grandit et s'éduque. Ces destins sont racontés à travers des travaux de recherche, des documentaires, mais également par la création littéraire, je le disais, la fiction. On pense à des autrices comme Marie Dariussecq, Maëlys de Kerangal, Delphine Poulain ou Marie Cosnet, notre invitée pour ce numéro d'Être et Savoir. Notre invité avec d'autres invités qui sont présents dans ce studio, j'annonce aussi la leçon de choses en fin d'émission. À l'occasion de Paris Photo, c'est Harry Gruyert qui sera au micro de Sophie Bobert. Vous entendrez le photographe lui raconter le poids de la religion dans son enfance flamande et ses rêves d'ailleurs en regardant le ciel, un globe terrestre ou en passant simplement les limites du terrain de football. C'est très beau, ce sera vers 17h50. Je remercie toute l'équipe d'Être et Savoir. C'est Jean-Guilain Mèche qui est à la prise de son aujourd'hui. Un grand merci à Avril Ventura, collaboratrice spécialisée, et à Philippe Baudouin, réalisateur, qui fabrique cette émission avec moi. Quatre invités donc avec moi. Marco Briganti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire-géographie et formateur CASNAV dans le département de l'Essonne. CASNAV, c'est l'accueil des enfants nouvellement arrivés. On parle d'élèves allophones aujourd'hui. Je résume. Vous avez écrit sur un projet de recherche action sur l'accueil des jeunes arrivants en France dans le dernier numéro de la revue Diversité. J'indique que ce numéro est extrêmement intéressant. Son titre, c'est L'hospitalité. On y trouve un entretien avec la juriste Mireille Delmas-Marty ou un article du sociologue François Dubé. Avec nous également Olivier Perroux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste des migrations et de la traite des êtres humains, cofondateur de l'association Trajectoire. Vous avez publié un livre en 2013 dont le titre est « La traite des enfants d'Europe de l'Est en France » aux éditions Non-Lieu. Plus récemment, une étude de l'UNICEF dont vous êtes co-auteur, « Ni sain ni sauf ». Elle porte sur les trajectoires des mineurs non accompagnés dans le Nord, une étude assez inquiétante. Avec nous également Marie Cosnet, vous êtes en duplex, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Bayonne, dans le Pays Basque, vous êtes professeure de lettres classiques, vous êtes traductrice de textes anciens. En 2017, vous avez retraduit les Métamorphoses d'Ovide. Vous êtes très investie personnellement dans l'accueil des migrants, c'est ce que vous racontez dans un ouvrage avec Mathieu Pott-Bonneville, dont le titre est « Voir venir, écrire l'hospitalité ». Vous avez également écrit un autre ouvrage, « Les enfants de l'aurore », paru chez Fayard. On y reviendra parce que ce livre qui évoque l'Iliade évoque aussi le parcours de jeunes migrants. Gwenaëlle Boulay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du magazine Astrapi, vous êtes également autrice jeunesse. On se souvient d'un récit, Les Trois Étoiles, qui avait été publié dans un Gemlire il y a désormais 3 ans. C'était un Gemlire de Noël. Ça racontait l'arrivée d'une famille syrienne en France. Et ce récit m'avait personnellement pas mal marqué.
Le bateau accoste, première vision des barbelés. Ça, mon frère ne m'en avait pas parlé. Encore des armes et des pare-balles. On nous fait signer des papiers dans une langue qu'on ne parle pas. On nous fouille, on nous désinfecte comme des animaux. On nous sépare de mon père, pas le temps de lui dire un dernier mot. Dans des camps provisoires, des couvertures, un matelas. Un niçois me raconte qu'il est là depuis des mois. Toulouse me manque déjà. Ma mère s'endort dans mes bras. Elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra. La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles. Dans un journal, j'apprends qu'ils ont fait sauter la tour Eiffel. Le lendemain, on nous entasse dans des bus. Les autres sur les uns, qui peut le moins, un peu le plus. Des centaines de fous accompagnent notre départ. Des poings brandis en l'air, des cris, des sales regards. Je crois à celui d'un type.
C'est une chanson de Big Flo et Oli, une chanson en forme de dystopie qui s'empare du sujet en racontant comment nous, Français, pourrions devenir migrants. Enfin, c'est un monde imaginaire que décrit le duo toulousain. Un duo qui s'adresse beaucoup au jeune public, qui rencontre un large succès parmi les enfants et les adolescents. C'est votre travail aussi, Gwenaëlle Boulet, en tant que rédactrice en chef d'Astrapi, de vous adresser au jeune public. On voit que c'est un sujet dont s'empare à la fois la presse jeunesse, les auteurs jeunesse. Vous y consacrez des dossiers, vous en parlez dans Astrapi par exemple.
Oui, mais c'est vraiment un sujet effectivement qui nous tient à cœur et qui, parce que les enfants d'aujourd'hui sont confrontés. Dans leurs écoles, ils ont des enfants qui arrivent régulièrement, qui parlent d'autres langues, que ce soit du russe, des langues d'Europe de l'Est, des Africains, des voilà. Donc ils voient d'autres enfants arriver. Et puis c'est aussi un sujet de société. Et nous, ce qui est intéressant dans la presse jeunesse et dans la littérature jeunesse, ça va être d'arriver d'un point, c'est d'arriver à donner des éléments pour comprendre ce qui se passe, c'est quoi un migrant, c'est quoi un réfugié, de donner les vrais termes qui correspondent à la réalité. Et puis d'autre part, ce qu'a toujours fait la littérature jeunesse, c'est-à-dire de développer aussi ce qu'on pourrait appeler l'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre, la capacité d'adopter un point de vue, que ce soit celui d'un enfant d'ici ou d'un enfant d'ailleurs, et de pouvoir les emmener un petit peu dans cette possibilité de se déplacer.
Astrapi, c'est un magazine qui s'adresse aux 7-10
ans. 7-11 ans, oui, c'est sur le primaire, oui.
Ça commence dès cet âge?
Ben oui, puis nous, donc moi, Astrapi fait partie d'un groupe qui s'appelle Bayard Press, donc on a à peu près 22 titres, oui, sur les tout petits avec Poppy, jusqu'au grand avec Phosphore. Et c'est vrai que depuis même petit, on a un magazine qui s'appelle Tralalire, par exemple, pour les 2-5 ans. On avait fait un récit qui s'appelait Le Grand Voyage de Yaya, et c'est un petit âne qui doit partir avec son papa âne, parce que la rivière s'est asséchée, et qu'ils peuvent plus avoir ce qu'il leur faut pour vivre, donc ils décident de partir. Donc dès les petits, on a déjà des récits qui mettent en scène ce type de situation. Or, récit fiction, et puis dans des magazines comme Astrapi, Image Doc, etc., on va avoir des documentaires, des reportages aussi sur des enfants, un reportage sur un enfant qui vit à Calais, ou un sur un qui est arrivé il y a un an de Syrie et comment il a réussi à s'intégrer justement dans une école. Donc on va donner un peu toutes ces... On utilise tous les matériaux et du journalisme et de la littérature pour donner à voir, à connaître cette problématique aux enfants.
Quelles sont les réactions des lecteurs et des parents aussi, puisqu'on parle d'enfants assez jeunes, comme les lecteurs de J'aime lire, qui ont lu les 3 étoiles, en 2016.
Alors les réactions, ce qui est intéressant, c'est toujours la différence entre l'édition et la presse. L'édition, vous choisissez un livre pour vos enfants, donc vous avez déjà mis votre nez dedans. La presse, elle arrive chez vous. Vous avez fait un contrat de confiance, vous avez payé votre abonnement, il arrive chez vous. Donc c'est déjà, il y a quelque chose. C'était très intéressant sur les 3 étoiles, qui était donc le récit de Noël il y a 3 ans de J'aime lire, qui avait eu, je trouve, beaucoup de courage de le publier. Donc l'histoire d'un petit garçon qui a dû quitter la Syrie avec sa famille et traverser effectivement la mer. Donc c'est un récit que j'ai construit assez proche d'un reportage de Omar Waman que j'avais entendu sur France Inter. Et donc je me suis beaucoup inspirée de ce reportage pour le faire. Et ce qui était intéressant dans les réactions, c'était il y avait 2 types de réactions. La première, énormément de courriers positifs. Vraiment des gens qui nous ont dit, on a été très émus, des parents qui nous disaient, j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout de l'histoire sans pleurer. Enfin bon, donc on a eu beaucoup d'émotions autour de ce récit, et ça c'est toujours touchant pour un auteur d'avoir réussi à émouvoir et les enfants et les parents. Et puis des retours plus négatifs, de 2 sortes. La première, j'ai envie de dire, bon, qu'on a un petit peu évacué rapidement, qui sont des courriers ouvertement racistes, on peut le dire. Et puis le deuxième, qui est vraiment une vision de l'enfance qu'on a souvent, à laquelle on se heurte souvent, c'est la question de, est-ce que l'enfance, c'est une période de la vie qu'on doit mettre sous cloche? C'est-à-dire, en gros, ils auront bien assez le temps de découvrir que la vie est dure. Et du coup, si on pouvait leur épargner ça, ce serait sympa, surtout au moment de Noël. Et voilà, donc ça c'était la deuxième partie de gens qui auraient envie que l'enfant soit un peu épargné de ses problématiques. Or, moi je pense que l'éducation est justement cette capacité qu'on peut avoir à éveiller l'enfant à tous les aspects de la vie, les joies comme les difficultés, les peines, et justement d'apprendre ensemble à les appréhender.
En tout cas, c'est le parti pris de Bayard. On peut signaler que beaucoup de publications donc portent sur ce sujet. La Nouvelle, publiée chez Flammarion Jeunesse, raconte une histoire un peu similaire à celle de 3 étoiles. Ça se passe en Bretagne. C'est un très joli récit. Cher toi, que je ne connais pas, c'est chez Helium. Et là, ça s'adresse à un public plus jeune, pour citer 2 exemples chez d'autres maisons d'édition. Marie Cosnet, vous ne vous adressez pas spécialement au jeune public. mais vous parlez de jeunes et d'adolescents. Alors j'ai évoqué les enfants de l'aurore, c'était peut-être un petit peu mystérieux pour nos auditeurs. C'est un livre qui évoque l'Iliade, qui reprend le récit de l'Iliade et qui dresse, dites-moi si je vais trop loin en le disant aussi franchement, qui dresse des parallèles avec la situation des migrants aujourd'hui qui traversent la Méditerranée.
Alors dans Les Enfants de l'Aurore, en effet, je pars de l'Iliade comme d'une des premières épopées et de ces garçons qui sont partis pour rejoindre un rêve qui était plus grand qu'eux, sur une route qui n'était pas que la leur, qui était la route de tout le monde. C'est-à-dire, on part pour chercher Hélène. Et je voulais surtout pas, et en tout cas, je pense que j'ai toujours essayé d'éviter de raconter les histoires des jeunes hommes, des jeunes garçons, des adolescents que je rencontre qui sont eux sur la route aujourd'hui, comme des histoires littéraires. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Mais il se trouve que dans ce texte, ils se sont rencontrés autour de ces questions. Ce sont des histoires qui arrivent aussi. Par exemple, l'histoire de la mer, du passage de la mer, qui commence. Alors j'en ai plein. J'en ai des histoires qu'on m'a racontées et que je raconterai jamais en faisant fiction, en faisant du récit. Ces histoires qui forcément nous renvoient aux vieilles histoires. Il y a toujours un capitaine, c'est un capitaine improvisé, c'est lui qui dit ce qu'il faut faire au moment où il n'y a plus rien à faire parce que le bateau chavire. Et il dit non, non, on va jeter personne à l'eau parce qu'il n'y a pas de fort, il n'y a pas de faible, on s'en sortira tous ou aucun. Et des histoires comme ça qui sont portées par des adolescents de 15 ans, 16 ans, forcément ça rencontre les autres histoires, celles qu'on connaît et celles qui... Voilà. Et je pense que dans ces récits qui arrivent avec ces jeunes hommes qui arrivent, ces jeunes garçons, ces adolescents, quelque chose, quand on les reçoit, ces récits-là nous surprend énormément et nous bouscule beaucoup.
On peut par exemple écouter pour entendre la voix d'un jeune concerné, écouter Samuel.
Moi, c'est Samuel, il y a 16 ans. Je viens du Cameroun. Ça fait 3 mois que je suis en France.
Vous êtes arrivé comment ?
Comme tout le monde, par la mer. Arrivé en Italie et puis venu en France. J'ai fait presque 1 an en route pour arriver juste ici.
Pourquoi vous aviez envie de venir en France ?
Pour poursuivre les études, avoir certaines opportunités, ce qu'on n'a pas dans nos pays. Et il fut aussi certaines violences. C'est même dur à raconter parce que ça fait mal.
Alors, le reportage où Samuel était interviewé par Florence Turm a été diffusé dans un journal. Sur France Culture, on a pu entendre ces histoires à travers des émissions telles que Les Pieds sur Terre ou LSD. Et pour revenir à cette notion d'histoire et comment elle se raconte, Olivier Perroux, je voulais vous poser la question de savoir comment il vous la raconte à vous qui êtes sociologue et qui êtes en contact à travers vos travaux avec de nombreux enfants, jeunes, migrants. Aujourd'hui, on parle de mineurs non accompagnés. Il raconte cette histoire sur quel mode et comment il se la raconte aussi?
On va dire ce qui change beaucoup entre les migrations qu'on a pu connaître et les motifs de migration qui sont finalement toujours un petit peu les mêmes. C'est-à-dire que soit c'est la migration liée à une absence de perspective, soit c'est lié à des persécutions, mais ça, enfin, les Européens qui sont partis ont connu la même chose. 19e siècle, on est plutôt sur l'absence de perspective, 20e siècle plus le siècle des persécutions. Ce qui change beaucoup dans le récit, finalement, c'est l'impact des réseaux sociaux utilisés par ces jeunes. Alors, d'une part, ça change sur, en fait, ça crée une forme d'uniformisation des codes. C'est-à-dire qu'en fait, on a des jeunes qui, en étant, à Kaboul ou à Bamako, vont avoir les mêmes aspirations qu'un jeune qui est à Londres ou à Paris, un jeune français ou un jeune anglais. C'est-à-dire qu'il peut être supporter de Manchester United, vouloir le dernier téléphone et une situation comme il la voit dans les films qu'il peut regarder. Donc déjà, on a une uniformisation des codes et donc des aspirations qui sont de plus en plus communes à une participation à cette mondialisation. Et ça, c'est vrai qu'on va le retrouver beaucoup dans le récit à travers les photos qui s'envoient. Ils veulent montrer à leurs copains qui participent à cette mondialisation, qu'ils ne voyaient que à travers des images. Ça, c'est le premier point. Du coup, sur le poids des communautés locales dans la décision de partir, elle est moindre qu'avant. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que voilà, il y a quelques études qui avaient été faites et une qui date d'il y a 2 ans où on avait 70% des jeunes qui expliquaient qu'en fait, c'est eux qui avaient pris la décision de partir, alors qu'avant, on était beaucoup plus sur des mandats familiaux. Donc ça, on voit que du coup, le contact direct, j'ai envie de dire, avec le monde autre, et donc le monde occidental en ce qui nous concerne, va faire que le rapport va être beaucoup plus individualisé au projet migratoire. Et enfin, et là, c'est quelque chose qu'on découvre, mais on ne sait pas forcément trop comment faire. Le mode de reconnaissance, c'est-à-dire quand ils vont faire l'aventure, comme ils disent.
Faire l'aventure.
Ouais. C'est-à-dire que on part à l'aventure. Alors, ça peut être perçu un peu comme un voyage initiatique, donc certains vont mettre ça en avant. Donc, comme disait le jeune, là, c'est effectivement pour échapper à un manque de perspective, à des violences, qu'elles soient familiales, politiques ou autres. Mais cette aventure, il va falloir la raconter. Et c'est vrai, comme la communication maintenant ne coûte rien, le moyen de la raconter, c'est à travers les réseaux sociaux. Et on a l'impression que de plus en plus, ces jeunes cherchent à être intégrés doublement, c'est-à-dire à montrer qu'ils réussissent localement, mais surtout, ce qui est important pour eux, c'est de montrer qu'ils ont réussi à leur famille, à leurs copains, qui se retrouvent aussi sur ces réseaux sociaux, mais un qui peut être à Casablanca, l'autre qui peut être à Hambourg, l'autre, vous voyez, qui peuvent être éclatés.
Mais est-ce que comme dans les réseaux sociaux et la manière dont ils sont utilisés par les jeunes, mais à peu près tout le monde, on enjolive, on raconte que les bons côtés, on expose les aspects les plus lumineux de sa vie?
Oui, alors ça, bon, tous les migrants, hein, depuis que, en fait, on a toujours une dette morale quand on migre de réussir, qu'on soit jeune, moins jeune ou autre. Si on n'a pas réussi, faut pas le dire, parce que le voisin a réussi, donc ça serait la honte. Et c'est vrai qu'il y a une sociologue, c'est Dana Diminescu, qui explique que le deuxième job du migrant, maintenant, quand il revient à la maison, c'est de mettre en scène sa réussite sociale, qu'elle soit vraie ou fausse, pour prouver que lui a réussi. Donc, forcément, dans la communication qu'il va y avoir, c'est très difficile de parler des aspects qui vont pas. Et donc, oui, on va être sur des mises en scène. Et chez les jeunes, ouais, c'est déjà le cas d'ailleurs. Enfin, pour n'importe quel jeune, on voit ces mises en scène sur Facebook pour des jeunes lambda. Et donc, il n'y a pas de raison que les migrants échappent à ça.
Că mult timp am mai trecut de când nu ne-am mai văzut. Dor de casă, dor de casă.
Olivier Berrou, c'est vous qui nous avez suggéré cette chanson en roumain, que raconte-t-elle?
Alors déjà, c'est un petit clin d'œil sur les 30 ans donc de la chute du mur. Elle parle de dor de casa, ça veut dire en fait la douleur ou la souffrance de la personne qui est partie. Ce qui lui manque, c'est ses proches, sa famille, qu'il ait réussi ou non. Et donc, c'est une chanson qui exprime cette douleur-là.
Concernant les mineurs accompagnés, il y a aujourd'hui de gros enjeux d'écoute. J'ai trouvé qu'ils étaient parfaitement illustrés dans un documentaire. C'est un documentaire qui s'appelle « Cœur de pierre ». On va écouter Gorban, un jeune Afghan. Il rencontre son psychologue, Stéphane Weiler.
Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas où en sont mes démarches. Il n'y a ni début, ni fin. Je ne sais pas. Et mon acte de naissance. Ils veulent refaire la traduction. Le retraduire. La date n'était pas correcte. La date du 31 novembre. Le 31 novembre. Ça devait être le 30, normalement. Il n'y a pas de 31. Ils veulent refaire la traduction. Et mes affaires vont repartir à zéro.
On vous a fait naître à une date qui n'existe pas. J'ai l'impression que ce qui se passe là avec votre date de naissance, où on vous donne une date de début qui n'existe pas, effectivement, ça illustre assez bien le fait que s'il n'y a pas de date de début, on ne peut pas avoir de repère. Et on ne peut pas construire quoi que ce soit.
Un documentaire d'Olivier Jobard et Claire Billet, il est actuellement diffusé dans les cinémas bretons, puisqu'en Bretagne, c'est le mois du documentaire. Par exemple, il sera diffusé la semaine prochaine à Saint-Ivy et le 26 novembre à Pontivy, pour vous donner le maximum d'informations. Question du flou absolu, à la fois dans le traitement administratif et les réponses qui sont faites, à tel point qu'on peut avoir une date de naissance qui n'existe pas. Je la trouve particulièrement frappante, Marie Cosnet. Et ça rejoint aussi des choses que vous racontez sur des absurdités administratives et aussi une certaine forme d'incommunicabilité ou de problème de dialogue, tout simplement, et d'écoute.
Mais en fait, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur il faut protéger l'enfance de tout, l'enfance d'ici, en fait. Mais c'est au nom de cette enfance qui serait absolue, sacrée, sacralisée, voilà, que tout se retourne contre l'enfance. Parce que, étant donné que c'est la seule porte de statut possible après les 18 ans, l'enfance, la minorité, c'est justement pour ça qu'elle est tellement mise en question et qu'elle est tout le temps soupçonnée de ne pas être minorité. C'est justement parce qu'elle peut être protectrice qu'elle est soupçonnée d'être usurpée. Et les évaluations de minorité pour ces jeunes gens sont en effet sans début ni fin, parce que même quand on pense avoir quand on pense être protégé, quand on pense toucher un petit peu la fin, ça recommence, test osseux, une mauvaise date, de l'encre qui bave sur l'état civil, etc. Mais ça part de choses très 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 hypocrites, parce que souvent la plupart des jeunes qu'on voit, notamment les jeunes qui viennent d'Afrique subsaharienne, ils ne sont pas inscrits à l'état civil. Du coup, quand on va demander un jugement, on ne demande pas un extrait d'acte de naissance, on peut le demander, mais on demande surtout un jugement supplétif qui va en tenir lieu. Et ces jugements supplétifs, ils sont produits en justice, mais si le jeune n'est pas inscrit à l'état civil, il faut des témoins qui témoignent de ça, etc. D'où en effet, la date qui n'existe pas, ou le 1er janvier, enfin voilà, des dates comme ça, c'est souvent. C'est pas pour autant que le jeune n'est pas jeune, que le jeune n'est pas mineur, mais c'est qu'on tente de sortir de ces critères-là. C'est pour ça que il semble que aujourd'hui, on est dans une impasse avec la minorité. Justement, parce que on est enfant, on est davantage en danger que si on ne l'était pas. Ce qui s'est passé à Porte de la Chapelle hier, c'est ça. C'est les mineurs qui n'ont pas, alors les autres n'ont, sont pas relogés pour longtemps, mais au moins ils ont été relogés dans un gymnase, au moins pour quelques nuits. Les mineurs, non. Parce qu'étant donné qu'ils sont mineurs, ils sont en recours de minorité, bah, ils pouvaient pas être considérés comme des adultes. Donc, ils sont complètement dehors. Et il semble que l'école, là, la scolarité, à ce moment-là, ou en tout cas la possibilité de faire des études, soit un critère possible de protection.
Nous allions justement passer au versant scolaire, parce que il y a tout le discours qui est tenu dans la société, à travers les échanges entre les gens qui la composent, les discours politiques. Et puis, il y a l'école qui accueille les jeunes en âge d'être scolarisés. On va bientôt fêter les 30 ans de la Déclaration des droits de l'enfant. C'est une convention, c'est la CIDE. Et cette convention précise que tout enfant a le droit à une instruction et une scolarisation s'il le souhaite aujourd'hui, mais ce n'est pas vraiment une question nouvelle. En fait, on peut en faire l'histoire de cette question, Margot Briganti. L'école accueille-t-elle plus de jeunes migrants ?
La question de la place des enfants et des enfants étrangers, elle est effectivement ancienne. Elle date de l'histoire de la migration, dès la fin du 19e en fait. Dès la fin du 19e, à la fois l'allophonie, on interroge l'allophonie, et on a beaucoup d'élèves allophones.
Alors, allophone, c'est vraiment un terme typique de l'éducation nationale.
Ben oui,
alors,
nous en faut.
C'est un mot, qui a des racines qu'on peut comprendre, mais c'est vrai qu'on...
Des élèves qui parlent d'autres langues.
Voilà.
Des élèves qui maîtrisent d'autres langues.
Dans la vie normale,
on dirait comme ça. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est que l'école se raccroche à la vie normale. Oui, donc depuis la fin du 19e, on note la présence des élèves avec une accélération de la migration au début du 20e. On a beaucoup d'enfants, hein. On a à peu près 250 000 enfants pour 3,4 millions d'élèves début du 20e. La manière dont on traite l'étranger, elle se fait sous forme de convention. À la fin de la Première Guerre mondiale, on a besoin d'une manœuvre importante et on va faire venir beaucoup d'hommes, du coup. Et on conventionne avec des pays, l'Italie, la Pologne. Juste après, on se rend compte qu'ils ont des enfants et des familles, donc on va aussi conventionner pour ça. Et on se pose tout de suite la question de savoir s'il faut qu'on les scolarise. Avec la Pologne, on a des conventions où on fait venir des moniteurs, hein, parce que peut-être qu'ils vont repartir. Donc peut-être que c'est pas la peine qu'ils prennent la place d'un petit Français à l'école. Donc ça, c'est en tension. On en a une vingtaine en 1922, on en a 150. Mais la majorité, les fascistes italiens vont créer des Casa d'Italia pour essayer de scolariser les enfants italiens et en même temps reprendre un peu la main sur ces gens.
En France,
oui, j'entends. En même temps qu'ils sont repartis. La réalité, c'est que la plupart des enfants étrangers, ils sont scolarisés dans le milieu ordinaire. On retrouve ces mêmes tensions, ou ces mêmes, en tous les cas, problématiques en 1977, quand on crée les ELCO, donc les enseignants de langue et de culture d'origine, qui, au départ, ne doivent donner des cours de langue qu'aux enfants, qui sont eux-mêmes originaires de ces pays-là, donc il faut que les parents soient. Et ça n'est qu'en 2016 qu'on en fait des cours de langue vivante. Donc on voit bien que tout ça...
Avec des polémiques du reste, mais ce sera un peu trop long, oui, de les aborder maintenant. Depuis quand parle-t-on d'élèves allophones, puisque c'est le terme consacré dans l'éducation nationale?
Très très récemment. Voilà. En fait, les premiers textes sur les enfants étrangers sortent en 70, on parle d'enfants étrangers. Et entre 70 et 86, on a 7 textes différents, c'est-à-dire en gros tous les 3-4 ans, qui viennent changer les dénominations, enfants étrangers, enfants non francophones. Et on parle d'allophones à partir de 2012, en fait. Entre 2002 et 2012, on n'a plus que 2 textes, donc on stabilise les choses. Ce qui est très différent de la politique de migration, parce qu'on a une centaine de textes qui viennent percuter, ou en tout cas redéfinir le code de la nationalité et la politique migratoire. Sur l'école, on en a beaucoup moins et ça s'est stabilisé. Donc on parle d'élèves allophones depuis 2012, parce que du coup, ils changent de statut, on les voit différemment. C'est plus seulement des enfants, ce sont des élèves. C'est plus leur statut qui va les définir, ils sont pas étrangers, ils ont des compétences puisqu'ils maîtrisent d'autres langues. C'est pour ça qu'on dit allophone et que le mot il est chouette et qu'il est important. Ces élèves sont tout à coup des gens qui peuvent apporter un certain nombre de choses et on s'appuie là-dessus. Et ça va considérablement impacter les dispositifs qu'on met en place, mais aussi la manière d'enseigner. Et quand tout à l'heure vous disiez qu'effectivement nos enfants ont maintenant effectivement ces enfants-là dans leur classe, c'est relativement récent, puisqu'avant on avait quand même un système qui avait des dispositifs, ça existe encore. Oui, hein,
mais vous adressez à Gwenaël Boulet qui est à côté de vous.
Oui, pardon, excusez-moi, on est à la radio, j'avais oublié. Donc on a ces élèves qui nous arrivent maintenant et qui sont... Le principe de scolarisation, c'est l'inclusion. Ils sont dans les classes et on leur donne ce dont ils ont besoin pour apprendre le français.
Donc, on parle d'inclusion du côté de l'école. Quelle importance cette scolarisation revêt-elle du côté des familles et des jeunes, Olivier Perroux?
Alors, c'est vraiment un souhait. Hein. C'est-à-dire que le fait de vouloir aller à l'école, souvent ils doivent faire des pieds et des mains. Et comme ça a été dit, il y a des complications administratives qui font que c'est très difficile. Si on prend notamment la question des bidonvilles, alors qu'on ne peut pas rattacher à la migration, puisqu'on est surtout sur des personnes qui sont citoyens de l'Union européenne, on s'aperçoit que dans les bidonvilles qui sont là depuis 20 ans en France, on a un peu moins de 50% d'enfants qui sont scolarisés. Et souvent, pour des raisons qui sont assez simples, c'est-à-dire que le maire de la petite ville va hésiter à les scolariser quand on est sur de l'école primaire, bien que ce soit interdit. Et pourquoi il hésite? Parce qu'il se dit que si je les scolarise, ça veut dire qu'ils vont rester sur ma commune, et ça veut dire que les électeurs, lors du vote, risquent de me le faire payer. Et souvent, malheureusement, c'est aussi ce qui peut se passer. Donc c'est pas que le maire qu'on peut incriminer, bah c'est qu'effectivement, il y a toujours ces représentations qui font que c'est pas évident. Mais c'est sûr que, j'ai envie de dire, l'école, la formation, l'apprentissage, c'est vraiment la chance que qu'amènent ces jeunes-là, parce qu'il y a vraiment un dynamique et une dynamique et je vois de plus en plus, on a des patrons pour des jeunes qui ont 16-17 ans qui veulent absolument avoir des mineurs non accompagnés dans l'apprentissage, parce que ils savent que du coup en boulangerie, en boucherie, etc., ils pourront compter sur eux. Et on a un discours un petit peu schizophrénique où finalement, au niveau administratif, c'est extrêmement compliqué qu'ils puissent avoir un statut et qu'ils puissent s'insérer. Donc d'un côté, on paye un hébergement. De l'autre côté, on a des besoins de main-d'œuvre importants, mais on n'arrive pas à dire, ben en fait, ces jeunes, on en a besoin, c'est l'avenir du pays aussi.
Alors ça rentre en collision avec des questions politiques. Alors ici, on ne fait pas un débat politique. Ces débats sont très nombreux et ils sont posés, y compris à France Culture. Je voulais rester sur la question scolaire et la question de la scolarisation, puisque c'est un droit de l'enfant. Vous y consacrez une petite étude de cas. Enfin, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, un livret, voilà. Non, mais je parlais du cas d'Adil dans ce livret Gwenaëlle Boulet, consacré donc aux droits de l'enfant et publié par Image Doc, Astrapi et J'aime lire, bon, en gros par Bayard. Oui. Ça intéresse aujourd'hui les enfants d'entendre parler de leurs droits et du droit des enfants en général?
Oui, et puis ce qui est toujours étonnant quand on travaille avec les enfants, moi je trouve, c'est de voir à quel point ils ont quand même cette notion. Alors ça fait un petit peu, ça peut faire un peu, je sais pas, niais peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas quand on travaille avec les enfants, cette notion de communauté des enfants du monde, elle est quand même très naturelle chez eux. C'est-à-dire, très vite, quand on va parler avec des enfants, de se rendre compte, ils ont fondamentalement, ils ont cette idée, très rapidement, que les enfants du monde, bah, qu'ils ont, oui, il n'y a pas de raison qu'ils aient pas les mêmes droits, parce qu'ils habitent pas dans tel pays. Très vite, il y a plein de littérature là-dessus, mais quand on va être avec un enfant et de s'imaginer que c'est quelque part un peu le hasard qui l'a fait naître là, mais qu'il aurait pu naître ailleurs, qu'il aurait pu lui arriver plein d'autres choses dans la vie, il va faire cette connexion beaucoup plus vite que les adultes qui vont un peu se refuser à faire cette connexion empathique parce que c'est dérangeant, parce que la mauvaise conscience revient, parce qu'on sait pas toujours comment agir. Mais les enfants, cette notion de tous les enfants ont des droits, ça les touche énormément. Et on a travaillé avec pas mal d'enfants pour fabriquer ce livret, avec beaucoup d'associations, bien sûr, des droits de l'enfant. C'est vrai qu'ils sont très sensibles à ce qui peut arriver. Alors, souvent aux enfants du bout du monde, mais quand ils voient que c'est près de chez eux, moi, par exemple, j'habite la ville d'Ivry-sur-Seine où c'est une grande mixité sociale. Moi, je vois que c'est une grande richesse pour les enfants de percevoir que d'autres enfants vivent des réalités très différentes. On avait des grands bidonvilles, Rome en particulier, Ivry-sur-Seine, quand t'es démantelé, des enfants, du coup, qui viennent à l'école, qui sont scolarisés, mais qui vivent dans des squats au bout de la rue. Et tous ces enfants se mélangent à l'école. Donc, ils ont des réalités très différentes quand ils rentrent chez eux. N'empêche qu'ils ont la même journée et qu'ils partagent la chose qui est la plus basique et chez l'enfant, c'est-à-dire le jeu. Donc, un enfant, il va pas voir un étranger dans l'autre. Il va voir, au maximum, souvent, ils disent, ils parlent pas français, donc c'est compliqué de jouer. Voilà, c'est ça qui va se poser. Mais dès qu'ils vont pouvoir jouer ensemble, les choses se passent quand même très vite. C'est pour ça que, sans entrer dans un débat politique, je trouve quand même que l'investissement dans l'éducation rapide, il est même hyper rentable pour une société. Parce que quand on voit la vitesse à laquelle un enfant allophone, ne parlant pas un mot de français, arrive à apprendre le français, c'est quand même incroyable par rapport à un adulte.
Marie Cosnet.
Oui, je pensais plusieurs choses sur le. Alors moi, je rencontre surtout des adolescents qui sont allophones, bien sûr, puisqu'ils parlent plein d'autres langues, mais qui sont aussi francophones, puisqu'ils arrivent d'Afrique subsaharienne francophone. Alors avec quelquefois un niveau de français un niveau scolaire, je veux dire, qui est pas du tout mauvais. Et tous ces jeunes-là qui sont nous dans l'académie de Bordeaux. Et autour de Pau, Bayonne, etc., ils sont tous scolarisés, même s'ils sont pas encore reconnus par les départements. C'est encore comme ça. Faut espérer que ça continue à l'être. Ils réussissent tous scolairement. Ils réussissent quand ils sont orientés en CAP. Ils réussissent. Alors c'est la plus grande des orientations, c'est le CAP. D'ailleurs, c'est eux ce qu'ils demandent. Ils veulent une formation courte pour pouvoir travailler, mais quand ils sont orientés en bac professionnel, ils réussissent aussi. Et on a quand même plusieurs gamins qui ont été orientés parce que c'était leur souhait et que les collectifs d'aide comme ça n'ont pas souhaité les décevoir dans ce désir-là, en terminale, en première et littéraire ou avec l'option philosophie, humanisme, etc. Et qui réussissent des bacs. Mais je voulais dire aussi, par exemple, je sais très bien qu'on est, quand je parle de Pau, Bayonne, on est quand même sur une réalité qui est très différente dans des très grandes villes. Je suis notamment un jeune garçon qui a 15 ans, qui a été reconnu mineur assez rapidement par le département de Créteil et qui, depuis le mois d'avril, attend son rendez-vous au CIO.
Au centre d'orientation, qui
seul peut l'affecter dans une formation. Et là, donc l'attente, elle est, on dirait qu'il n'y a ni début ni fin, parce que en effet, l'attente est insupportable à ce moment-là, parce qu'on touche quelque chose. On a vécu comme un héros combattant, héros, comme vous disiez tout à l'heure, hein, c'est Et là, tout d'un coup, c'est le quotidien le plus banal, mais en plus, dans lequel il n'y a pas d'effort à faire, et en plus, dans lequel la chose qu'on attend le plus, à savoir la scolarité, n'arrive pas. Or, le temps compte énormément. Parce que ce jeune homme, par exemple, il a 15 ans, mais il va bientôt avoir 16 ans. Et l'école n'est plus obligatoire après 16 ans. Donc, en fait, c'est un désir d'être éduqué, un désir de scolarité, mais c'est ce désir de scolarité, il est aussi complètement attaché au désir de s'en sortir avec un statut plus tard. Or, s'il est scolarisé avant 16 ans, ça lui donne des chances de poursuivre.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Oh Lord, live inside me, lead me on my way. Oh Lord, live inside me, lead me on my way, lead me home, lead me home. Oh Lord, in the darkness, lead me on my way. Oh Lord, in the darkness, lead me on my way, lead me home, lead me home. Your door, oh Lord, heaven's waiting. Open up your door, lead me home, lead me home, lead me home, lead me home, lead me home.
On peut entendre encore un peu le jeune Gorban. C'est toujours dans le documentaire d'Olivier Jobard et Claire Billet. On est à un stade où il a bien appris à parler français, mais où il est tout de même en colère.
Dans votre tête, vous n'êtes pas bien. Il y a quelque chose qui n'avance pas et que...
Il n'y a rien qui avance.
Il n'y a pas rien qui avance, mais...
Il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui avance. Depuis 4 ans que je suis en France, il y a quoi qui a été avancé? Il n'y a rien qui a été avancé.
Je vous vois, c'est évident.
Il n'y a rien qui a été avancé.
Que ça avance. Parce que...
Mais il n'y a rien qui est avancé.
Bah vous avancez en tout cas.
Mais moi, même moi, je suis avancé. Je ne suis pas avancé.
Bah rien que quand je vous entends parler, moi de...
Mais parler, fois... c'est normal, parce que c'est...
Bah c'est normal, parce que vous baignez dans un quotidien où vous parlez français, et ça c'est quelque chose du coup qui avance tout seul. Mais c'est quand même pas rien.
Pas rien de parler français, cela dit, ce n'est pas le seul objectif, Marco Briganti, puisque c'est vous qui représentez un peu l'éducation nationale. Ces objectifs, quels sont-ils pour les familles? Hier, quand on s'est parlé au téléphone, vous me racontiez que vous étiez en train de recevoir justement des familles de migrants et d'essayer de trouver avec eux quelles sont les meilleures solutions pour scolariser leurs enfants. Est-ce que ça veut dire déjà qu'il y a plusieurs solutions? Comment on se retrouve dans ce paysage scolaire quand on arrive avec des enfants en âge d'être en primaire, au collège, au lycée?
Alors c'est difficile ce que la position dans laquelle je suis, parce que évidemment que j'entends ces histoires qui me touchent d'élèves qui attendent plusieurs mois, et c'est une réalité. Et c'est toujours douloureux, parce que du coup ça interroge aussi notre professionnalisme et la manière de faire notre travail. Après, l'empathie des jeunes, elle est aussi celle des équipes, et j'entends aussi derrière le discours des invités qu'il y a quand même énormément de profs qui se mobilisent. Il y a aussi une structure qui se mobilise. D'abord parce qu'on crée des dispositifs, d'abord parce qu'on crée des protocoles, parce que si je peux recevoir les familles et choisir avec les familles.
Alors, juste comment se mobilisent les enseignants, les directeurs d'école, les principaux, au-delà de leur travail quotidien qui est de s'occuper des élèves, de les éduquer, de les instruire?
Mais ils nous appellent, nous, le CASNAV. C'est ça mon boulot, c'est de venir et de voler là partout où on nous demande et où les besoins émergent, et donc d'avoir la réalité du terrain. Nous, dans Les CASNAV servent à ça, ils servent à servir de relais, à faire remonter et à modifier les choses. Ce qui est intéressant avec ces publics qui sont à la marge, c'est qu'ils interrogent l'ensemble du système. À la fois, par exemple, vous parliez de l'accueil des parents, quelle place on fait aux parents? C'est un vrai problème de société, vous êtes parents, vous avez fait des réunions parents-professeurs, c'est quand même un peu... Voilà, bon. Et ben là, nous, dans nos temps d'accueil...
Un peu quoi? Non, ça va, c'est intéressant.
Oui, toujours, bien sûr, mais parfois un peu caricatural, ou en tout cas... C'est très codé, il faut se retrouver dans le système scolaire. Et on se pose tous la question en tant qu'enseignant aussi de qu'est-ce qu'on fait, de nos rapports avec les parents, etc. Là, nous, en cellule d'accueil, mais ça se passe dans plein d'autres endroits comme ça aussi, on les rencontre pour de vrai, on leur demande ce qu'ils souhaitent pour leurs enfants, c'est-à-dire qu'on choisit pas pour eux. Et le parcours, il peut être très différent en fonction du parcours antérieur de l'élève, de combien de temps il a été scolarisé, où il a été scolarisé, quelles sont les langues d'usage, les langues de scolarisation. Et évidemment que la réponse ne va pas être la même et qu'elle sera effectivement le plus sur mesure possible. Ça existe aussi dans notre maison. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'elle, dans une maison dans laquelle il y a 13 millions d'élèves, 850 000 qu'on décrit souvent comme une espèce de bloc incapable de faire de la place à, peut-être que c'est vrai, mais il y a aussi des endroits où on fait de la place aux différents parcours des élèves et on leur construit des parcours sur mesure. C'est peut-être parfois plus simple d'être à côté de la maison. Peut-être que parfois l'élève a besoin d'un soutien. Peut-être que des fois c'est un soutien en mathématiques et que c'est pas les mêmes solutions qu'on leur propose et que ça on le fait avec. Et c'est les gens qui décident. C'est pas moi. Moi, mon travail consiste à les conseiller.
Que signifie le terme inclusion pour vous? Parce que inclusion, c'est aussi un terme qui est utilisé pour l'accueil des enfants handicapés. Inclusion, c'est aller dans une classe, même si on ne parle pas tout à fait complètement français. Est-ce que ça pose pas des difficultés spécifiques aussi aux enseignants? Des difficultés de moyens, par exemple, pour s'occuper d'élèves avec des niveaux très différents et qui sont des cas particuliers?
Mais là, on va d'abord parler des enfants, puis après on parlera des profs. On va parler des jeunes.
Commençons par les élèves.
Pour les élèves. Les élèves, la plupart d'entre eux, mis à part le cas des mineurs isolés, mais même eux, ils nous viennent d'un monde ouvert, dans lequel ils étaient déjà scolarisés. Donc ils ont envie de continuer à faire des mathématiques, des sciences, et parfois ils en ont même les compétences. Si vous avez, et c'est de ça qu'on est sorti en 2002, hein, si on passe d'un modèle où on a des classes d'accueil, on aimait beaucoup le terme. Voilà. Mais parce que évidemment, il y avait un rapport particulier, il y a de très beaux films qui ont été faits là-dessus, des rapports particuliers entre les élèves.
Vous parlez de la cour de Babel?
Par exemple, ouais. C'est très très chouette.
Julie Bertuccelli. Donc depuis 2002, on a changé.
Oui. On essaye en tous les cas de le faire un peu partout. Il reste encore des dispositifs fermés. Et ça peut être d'ailleurs justifié quand il y a du grand décalage scolaire. Mais sinon, l'idée, c'est de mettre les élèves le plus vite possible dans la classe ordinaire. Je vais prendre un exemple simple pour être un élève lusophone qui est bien scolarisé et qui est de niveau 3e, d'âge 3e. S'il sait ce que c'est qu'une fonction et qu'il n'a pas de décalage en maths, il va en cours de maths. Il comprendra pas la blague du professeur de mathématiques. C'est pas très grave, l'humour des profs de maths étant relatif. C'est pas très grave.
Je vous laisse seul responsable de
bien
cette
sûr,
appréciation.
Mais il y en aura aussi pour tous les profs. Je suis prof d'histoire géo. Par contre, il sera à même, image et antécédent en tous les cas, ne lui poseront aucun problème. Donc il faut qu'il aille en cours de mathématiques, parce que c'est là où on va s'appuyer sur ses compétences et montrer qu'il en a. Et il a besoin de montrer qu'il a des compétences. Et finalement, et alors du coup je vais rendre hommage aux professeurs de mathématiques après les avoir critiqués, dans les programmes de 2015, ils ont fait des mathématiques une langue. Et ils sont très très vite changé leur pratique pour se rendre compte qu'ils ont une langue commune avec des élèves pour lesquels, du coup, la langue de communication n'est pas exactement la même. Donc, cet élève lusophone, il va aller en mathématiques, il va aller en sport, il va aller en art plastique, même si moi, je trouve que c'est très conceptuel. Ils y vont quand même, parce que les professeurs d'art plastique aiment beaucoup travailler avec ces élèves-là. Par contre, il va pas en histoire-géographie, où il y a beaucoup, du coup, de lexique. Il va rejoindre un professeur spécialisé, qui va lui apprendre le français, qui, dans sa classe, aura tous les élèves de tous les âges, en entrée, en sortie permanente à chaque heure. Et ça, vous avez raison, c'est un vrai défi pédagogique pour ce professeur spécialisé. Mais c'est aussi un vrai défi, et je vais du coup en venir aux enseignants, pour le professeur de la classe ordinaire, d'avoir dans sa classe un élève qui ne parle pas nécessairement. Mais l'hétérogénéité, c'est la norme. En fait, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que nous avons de toute façon dans nos classes...
Enfin, il y a des petites questions de formation des
bien
enseignants.
Bien sûr, ça va avec, mais c'est aussi mon travail, c'est aussi le travail des CASNAV.
CASNAV, vous nous rappelez la définition de ce sigle?
Pardon, alors... Centre Académique de Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des Enfants Issus des Familles de Voyageurs.
Voilà, ça vient pas forcément tout seul, même quand on travaille à l'éducation nationale. Finalement, quelle est la place de l'école, y compris dans l'imaginaire, comme institution, on parle d'accueil des migrants, qui est pas toujours aisé. On l'a entendu, qu'on parle de famille, qu'on parle de mineurs isolés. L'école, est-ce qu'elle a une place à part? Comment vous en parlent les migrants, Olivier Perroux ?
Alors oui, déjà sur les migrants, souvent ceux qui viennent jusqu'en Europe, c'est pas les plus pauvres, ceux qui étaient déscolarisés ou autres. Hein. C'est vrai que souvent on a une image un peu, parce qu'on entend des formules, toute la misère du monde, mais c'est jamais la misère qui migre. En général, s'ils migrent, c'est dans les pays d'à côté, ou alors ils migrent pas du tout, quoi. Ensuite, les jeunes, pour eux, c'est super important parce que justement, ça transparaissait dans le témoignage du jeune qu'on entendait précédemment. C'est peut-être le seul moment où ça dépend que d'eux, que de leur investissement, de voir des progrès. Parce que sinon, ils sont pris dans des procédures administratives qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, ils se raccrochent à l'apprentissage, puisque là, quelque part, ils sont seuls aux manettes. Sur ces modes de valorisation d'estime de soi, c'est hyper important. Et après, c'est des jeunes qui souvent peuvent avoir des dettes de voyage, qui sont partis parce qu'ils veulent aider leur famille. Et donc, leur objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir rapidement un métier et de pouvoir ensuite aider leur famille et vivre leur vie de jeune homme ou de jeune femme qui souhaite participer à cette mondialisation.
Donc, la dette de voyage, c'est l'argent qu'on doit à son passeur ou à des gens dont on a été victime sur la route. Margot Briganti, rapidement, vous voulez intervenir ?
Il y a une énorme hétérogénéité et il y a aussi des élèves, et c'est très très beau de le voir dans les classes, qui se rendent compte que c'est dans une autre langue que leur langue première que va se dire le monde. Un élève qui est de sixième, ça maîtrise 6000 mots quand c'est très bien construit. Et donc un élève qui nous arrive jeune, parce qu'on en a aussi qui nous arrive jeune, va construire sa représentation du monde, la manière de le dire, des concepts, sa manière de dire l'amour dans une langue qui n'était pas sa langue première. Et ça, ils en perçoivent très très vite l'enjeu. Et du coup, c'est des élèves qui se projettent très très vite dans le travail parce que ils le savent ça intimement, même s'ils sont pas capables de le formuler, ils le sentent. Et donc évidemment qu'il y a des élèves qui ont des objectifs très précis financiers de formation parce qu'ils ont ça, mais il y a aussi des élèves qui découvrent le monde dans une langue qui n'était pas la leur. Et ça, c'est un vrai bonheur d'enseignant. Alors, voilà.
Cette altérité linguistique, Marie-Rose Moreau en a beaucoup parlé. Elle est psychiatre et psychanalyste. Elle dirige la maison de Solène, maison des adolescents à Paris. Elle parlait également des empêchements d'apprendre à cause de parcours de vie qui sont parfois très douloureux et qui caractérisent parfois la migration, c'était dans une série documentaire LSD du 2 mai 2019. Ce LSD était produit par Pauline Mocor.
Lorsqu'on travaille avec les équipes sur ces enfants, ces adolescents, le projet qu'on fait avec eux, lorsqu'on les accueille et qu'on les laisse prendre leur place dans la société française, soit un projet qui soit adapté à leur parcours. Lorsque vous avez survécu à la mort d'un cousin, que vous avez été caché la moitié dans toute l'Europe de l'Est, dans un camion, etc., que vous avez subi des tas de choses, mais que vous avez aussi, bien sûr, fait des choses pour survivre, et qu'on vous dit, voilà, le dimanche après-midi, tu fais 2 heures de sport parce que c'est comme ça, ça peut paraître dérisoire, quoi. Ils n'ont plus grand-chose à perdre, hein, ces jeunes gens. Si effectivement ils ne peuvent pas réaliser au moins une parcelle de leur rêve là, ou de leur destin ou de quelque chose qui leur rendrait une certaine dignité à leurs yeux, ils laissent tout tomber, quoi. Ça arrive très régulièrement. Il y en a même qui, parce qu'en plus ils ont vécu des événements traumatiques, ils deviennent comme fous. C'est-à-dire ils ont l'apparence de la folie, quoi, tellement ils n'arrivent plus à s'adapter à ce qu'on attend d'eux, à ce qu'on imagine d'eux. Et donc là, ils font un petit peu n'importe quoi pour, au fond, retrouver une certaine liberté, quoi.
Marie Cosnec, comme vous, on milite pour l'accueil, l'hospitalité. Quand on veut, comme vous, raconter aussi des parcours positifs pour les jeunes migrants, il faut quand même pas oublier que ces parcours étant parfois tellement difficiles, embrayer derrière sur une scolarité normale ne relève pas du tout de l'évidence. C'est ce que dit Marie-Rose Moreau.
Oui, et à part quelques cas, parce qu'en fait, souvent, les jeunes vont décompenser quand ils sont posés, pas quand ils sont encore sauf quand, dans le cas du documentaire qu'on a entendu tout à l'heure, où le jeune dit ça n'avance pas, ça fait 4 ans et ça n'avance pas. Mais enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt des passages à l'acte ou des compensations, mais une fois que les choses étaient posées et justement avaient avancé. Mais pendant tout le parcours où il y a encore une quête, une conquête, etc., on les voit tenir, ces gamins. On les voit drôlement tenir. Et l'école, c'est une conquête aussi, c'est une quête. et du coup ils tiennent pendant ce temps-là de l'école. Et par contre, je voulais dire quelque chose sur même les formations qui ne sont pas pensées pour allophones, c'est-à-dire avec des élèves francophones venus d'Afrique de l'Ouest et qui sont inclus dans les formations, soit de CAP, soit de bac pro, soit en général, quelquefois même en troisième général, on a vu ça. Les enseignants, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, parce que nous on a eu beaucoup de jeunes aussi dans le privé, s'adaptent incroyablement bien à la demande. C'est-à-dire en général, en effet, les maths et l'anglais. Pas l'histoire géo, là, ça a été plutôt les maths et l'anglais qui... Bon, voilà. Alors, les maths, ils y vont, hein, ils sont... Mais c'est compliqué. Il y a tout un tas de gens qui donnent des cours particuliers. Les profs de maths ont donné beaucoup de cours particuliers. Mais quand même, je veux juste dire sur l'inclusion, on en rigole avec certains jeunes. C'est que, par exemple, en CAP électricité, dans un lycée pas très loin d'ici, ce sont que des Guinéens en CAP électricité cette année. Il n'y a pas un blanc, comme dit le gamin. Donc voilà, donc sur l'inclusion et l'hétérogénéité, c'est un peu raté, mais à l'envers, en fait. Ils ne sont vraiment pas nombreux, et les quelques-uns qui sont donc en deuxième année de CAP, ils sont... Bon, voilà, on voit bien pourquoi, hein, vous en avez parlé tout à l'heure. Et par contre, je voulais dire quelque chose qui se passe sur ces jeunes qui sont scolarisés, c'est qu'ils sont très nombreux à écrire autrement que sur les réseaux sociaux, à vraiment écrire leur récit. Et alors, bien sûr, c'est le récit héroïsé ou héroïque, comme sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, en fait. Et c'est très, très intéressant. Il y a une collection qui va s'ouvrir, qui s'appelle « Ces récits qui viennent », chez un éditeur qui s'appelle « Dacre », qui va réunir des récits de jeunes gens ou de jeunes filles, mais c'est surtout des jeunes gens qui prennent la parole et qui racontent.
Eh bien, nous serons attentifs à ces parutions. Je remercie chaleureusement les quatre invités d'aujourd'hui. Et je dis rapidement que toutes les publications dont nous avons parlé seront référencées à la page d'Être et Savoir sur le site de France Culture, évidemment. Un mot aussi pour vous dire que la semaine prochaine, la chaîne célébrera le centenaire de Primo Levi. Et dans Être et Savoir, nous aborderons la question de la transmission de son œuvre et plus largement de l'histoire de la Shoah à l'école, mais aussi grâce à des lieux de mémoire français tels que le camp de Drancy ou le camp des Mille. Et puis on passe à la toute dernière rubrique de l'émission, la leçon de choses. Et à l'occasion de Paris Photo, Sophie Bobert s'entretient avec Harry Gruyère qui raconte une enfance dans laquelle il se sentait encore à l'étroit.
Je ne peux pas dire que j'étais très malheureux, non. Mais quand même assez coincé. Je pensais surtout à m'évader. Je me rappelle bien de rêves d'enfance où, dès qu'il y avait des problèmes et tout ça, je devenais un oiseau. Je partais, j'avais des ailes, je partais, je regardais ça de loin, et c'était bien plus intéressant vu de loin qu'être dedans. Donc, en prenant distance, ça allait beaucoup mieux. Moi, j'ai toujours eu envie de voyager, et quelque chose qui me restait très fort de l'enfance, c'est que à la maison, on avait un globe dans lequel il y avait une lampe. Et je me promenais beaucoup sur le globe en disant, tiens, j'aimerais aller en Inde, j'aimerais aller en Afrique et tout ça. Ça m'a bien marqué et ça m'a fait beaucoup voyager, ce globe en verre qui était là. En verre, c'est un port aussi, donc c'est que j'aime beaucoup le port. Ça donnait envie de bouger. C'est une grande famille de 6 enfants, ils sont tous restés là-bas. Moi, je pensais qu'il y a une chose, c'est de partir le plus vite possible. Et on me disait après, oh, quel courage que tu as eu de partir. Et moi, j'aurais eu besoin beaucoup de courage d'avoir resté sur place.
Mais c'était le rythme familial, c'était le ciel trop bas, c'était la monotonie qui vous empêchait, qui vous opprimait.
Opprimer, c'est beaucoup dire. Je peux dire que c'était malheureux, mais quand même, ce catholicisme était très pesant et très présent. C'était... Je venais d'une famille très catholique aussi, donc c'était assez lourd. J'avais tous les jours les prières, le dimanche à la messe, catholicisme flamand qui me pesait.
Vous croyez en Dieu à l'époque?
À un certain moment, j'ai même voulu devenir moine, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc après, plein d'autres choses qui ont commencé à m'intéresser, j'ai laissé tomber assez vite. Je l'étais pas longtemps, croyant, je veux dire. Par exemple, ma sœur était missionnaire au Zaïre, où elle s'est fait tuer d'ailleurs. Et donc, mes parents allaient souvent voir le pape à Rome, qui était vraiment une chose très, très marquante. Donc, je voulais aussi m'échapper de tout ça, de tout ce contexte-là, qui était assez costaud quand même. Oui, je me suis plus ou moins enfui. Je pensais qu'une chose, c'est de partir, de découvrir des autres mondes, des autres univers. Mais il s'est passé une chose dont bizarrement je me rappelle, pourtant je ne me rappelle pas beaucoup de choses de l'enfance, c'est que j'étais, mon frère qui avait de l'asthme, qui était dans une école à la campagne quelque part, et on jouait au foot. Le ballon est sorti du terrain, et j'étais chercher le ballon en dehors du terrain, et il y avait un soleil couchant, c'est une très belle lumière, j'avais ma pelle de culotte courte, il y avait l'herbe qui était assez haute, je me frottais contre l'herbe, et j'étais chercher le ballon, et je me suis dit, tiens, je peux sortir du terrain, je peux être libre. C'est une petite chose, de rien du tout, sentir la possibilité de sortir du terrain et d'aller chercher le ballon, m'a dit, tiens, je peux partir de tout ça.
Mais avec un sentiment de peur, conjugué à cette révélation, ou une confiance, en fait ?
Non, de jouissance, de plaisir. De plaisir aussi, même de la lumière, c'était très belle lumière, c'était le sentiment aussi contre les jambes, l'herbe. Donc non, c'était, je peux faire ça, c'est possible de faire. Je crois que j'ai eu de la chance, mais j'ai tenu bon. Je savais que je voulais faire et j'en suis parvenu. Et puis j'ai pu, même financièrement, je veux dire, mes parents, avec 6 enfants, ils n'avaient vraiment pas d'argent pour moi. Donc dès que je quittais, il fallait assurer soi-même. Donc il fallait, j'ai fait beaucoup de choses de commandes aussi. Donc je suis... D'ailleurs, moi, je dis que je suis un photographe, et pour moi, c'est un métier. Moi, je ne dis pas que je fais de l'art. Si les gens trouvent que c'est de l'art, moi, je suis très content. Certaines choses, que c'est de l'art. Mais ce n'est pas à moi de le dire. Je veux dire, moi, je suis photographe, et puis c'est tout.
Le petit garçon que vous étiez pourrait vous regarder aujourd'hui en souriant.
Je pense, j'espère.
Et le dernier ouvrage, un recueil de photos évidemment d'Harry Gruyaert, s'appelle Last Call et il a été publié chez Textuel. Et à bientôt pour un autre Être et Savoir sur France Culture.